Par exemple, dans le même verset. Et parce que le problème d'exégèse simple, c'est que Laban, nous savons qu'il est le frère de Rivka et que Rivka est la mère de Jacob et Esaü. Alors, pourquoi on nous dit? C'est ça que Rachid dit, je ne sais pas pour nous ici. Ok? Mais il aurait dû dire ça déjà à Rivka, que Laban est le frère de Rivka, ça aussi on sait. Pourquoi il ne dit pas, je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre de Chidouche, de nouveau. Okay? Donc, ici, mais là. Alors, réfléchissez bien. Ce que je dis, que vous entendrez très souvent, c'est un des exemples de la modestie de Rachid. Et il y a beaucoup de drachot qui exploitent cela. Quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. C'est une vertu. Bon. Maintenant, je vais essayer de dire ça par image. Je vais essayer de dire, voilà, vous voulez voir qu'ici, il n'y a rien. Alors, je mets quelque chose et je l'enlève. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Mais j'ai mis quelque chose et je l'enlève. Vous avez compris? Il veut nous dire, je ne sais pas te dire, je ne peux pas te dire, mais sache qu'il y a quelque chose. Et ne quitte pas le texte, on ne t'a pas compris. Vous avez compris? Je voudrais avoir un micro de Bereshit, je vais donner un exemple dans Nahmani, et après, rappelez-moi qu'on revient. C'est le premier Ramban sur le premier verset. Et Ramban parle de la notion de création. Et parce que la question de Rashi, c'était pourquoi la Torah commence par l'enseignement de la création, vous vous rappelez de cela? Bon. Et le Ramban dit, la question ne se pose pas seulement pour le premier verset, pour le premier mot, Bereshit Bara, mais pour tout le récit historique jusqu'à la sortie d'Égypte, il dit, personne ne comprend. Et pour fonder la question, pourquoi c'est mis par écrit dans la Torah? Étant donné qu'on ne comprend pas, à moins d'étudier. Alors, bon, ça c'est un thème que je pense que vous avez compris par vous-même. C'est un non-sens, c'est insensé de prétendre comprendre quoi que ce soit des versets de la Bible tout entière si on ne les a pas étudiés. On lit un livre, on croit qu'on l'a lu, on n'a rien lu. On a lu un livre étrange et pas plus. Okay? Et on fait semblant de lecture pieuse, on a compris, on s'y... C'est clair. Et alors, là, il a l'expression suivante. La tshuva, la réponse à cette question, mais peine et schéma, c'est Bereshit, parce que l'œuvre du commencement sort amok, d'un secret profond, et non mouvable, qui n'est pas compris, ni na mikraot, à partir des textes. C'est vrai pour tout ce récit, jusqu'à Chodesh Elachem, qui est la première mitzvah. Mais c'est d'autant plus vrai pour le Maas et Bereshit, c'est-à-dire le premier chapitre. Hein? D'autant plus que nous avons une loi dans le Talmud qui interdit l'étudier en public. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc on lit, on fait semblant. Hein? C'est clair? Non. Et alors, il dit, « Enom uval mina mekraot, velo ivada alborio » Il ne peut pas être connu vraiment, alborio. Comment tu traduis alborio? Clairement, comme il est vraiment. Hein? C'est là?
Jusqu'au fond.
Oui, jusqu'au fond profond. Et là, Nipia Kabbalah, Al Moshe Rabbeinu, Nipia Gvura. Uniquement ce qu'il reçoit par tradition jusqu'à Moïse à la révélation. C'est clair. Et ici, le mot de Kabbalah a son sens général. Okay? Et il n'y a que les Mekoubalim qui ont cette Kabbalah-là. C'est clair. Donc, Ve Yodav Hayavim Leastir Otu. Et ceux qui le savent, doivent le cacher, le taire, et astir. Alors, si ceux qui le savent doivent le taire, comment ceux qui le savent l'ont appris? Vous avez compris ma question? C'est clair ce que
vous dites?
Par l'étude. Oui, par l'étude. Mais regardez ce qu'a dit la Ramban. Et ceux qui le savent doivent le taire. À personne. Quand on a un secret, on n'a pas le droit de dire qu'on a un secret. Même pas ça. Parce que dès que tu as dit que tu as un secret, sans dire le secret, tu l'as trahi. Donc ceux qui le savent doivent le taire, un point. Et c'est écrit. C'est-à-dire, un élève vient chez son maître, apprends-moi. S'il s'agit de ça, il dit de quoi tu parles. Je sais pas. Alors comment ceux qui le savent le savent, si ceux qui le savent doivent le taire. C'est clair ?
Est-ce qu'il y a certaines
réponse ?
Est-ce qu'il y a... Alors peut-être la réponse, c'est qu'il y a certaines choses qui doivent être
Alors, il ne s'agit pas de ça. On ne parle que des choses dont il ne faut pas parler, et on nous dit que ceux qui le savent doivent le taire. Ma question est très simple. Alors, ceux qui le savent, comment ils le savent? Si ceux qui le savent doivent le taire.
C'est clair? Leurs maîtres
se sont tués à ce moment-là. C'est vrai, alors ils ne le savent pas.
Ils se sont tués comme
ils pouvaient savoir. Tu es sur le chemin. Je vais un peu recoder. Il faut le comprendre en hébreu. Ils ne doivent le transmettre que dans le lachon du Nistar. C'est bien. Bon. Vous avez compris? Oui. Un peu ce que vous disiez, mais je voulais aller un peu plus. Ils ne doivent le dire qu'en le taisant. Il y a un langage qui consiste à taire ce que l'on dit, c'est le langage des secrétaires. Vous savez, ceux qui taisent les secrets. C'est le langage de la Kabbalah. Ceux qui le savent ne doivent pas l'enseigner en anglais, en clair. Ils doivent l'enseigner que dans la Kabbalah. C'est une des réponses possibles. La question reste. Et on va étudier ça dans le deuxième chapitre de Hagiga. Vous avez toute la Mishnah qui dit.
On peut peut-être aussi comprendre.
Vous voyez que ça.
On peut
aussi
peut-être comprendre que les personnes qui ont reçu cette connaissance l'ont reçue par d'autres.
Jamais, ça c'est de la magie.
Non. L'ont acquise.
Par eux-mêmes.
En arrivant à un degré de.
Oui, c'est ça, par eux-mêmes. Méfiez-vous de ça. Qu'est-ce que ça veut dire un degré?
À force d'étudier.
C'est ça, par eux-mêmes. Alors, méfiez-vous de ça. La Gemara rejette. Hein? Okay. C'est les chrétiens disent par l'opération du Saint-Esprit. Ça revient au même. Méfiez-vous. Okay. Vous savez, j'ai connu énormément de gens qui parlent comme si ce qu'ils savent, c'est par eux-mêmes qu'ils l'ont su. Alors, on n'écoute plus rien d'eux, uniquement.
C'est pas ça que je veux dire.
Non, mais c'est ça que je dis, moi, en tout cas.
Non, mais... À force d'étudier, par exemple, on peut acquérir...
C'est ça, par eux-mêmes.
Au départ, la transmission, elle a commencé comment?
Par quelqu'un qui a transmis. Il faut prendre ça au sérieux. Ça veut dire, si on parle d'une révélation, c'est qu'on parle d'une révélation. Donc il y a eu un révélateur. C'est clair? La première Mishnah des Pirkei Avot, c'est « Moshe Kibel Torah Misinai ». Alors on se demande, mais pourquoi on ne dit pas mon cher Rabbeinu? Parce que là-bas, il n'était pas Rabbeinu, il était Talmid. Il avait un maître. Et le commentaire, Rabbi Alphas en particulier, le Gaon de Vilna, a dit « Mimi shenig lalo misina ». Il a reçu de qui? De celui qui s'est révélé à lui au Sinaï. Alors ça, c'est la base de Torah Minashan. Si ça, on le met entre parenthèses, tout le reste n'a aucun sens. De ceux qui le mettent entre parenthèses. C'est clair. Alors méfiez-vous des gens qui... vous laisse sous-entendre que c'est eux qui l'expliquent. C'est suspect. Dès le début, c'est suspect. Voilà, c'est clair. Alors, vous voyez en quoi c'est parallèle de ce qu'a dit Rachid sur Isaïe et Jérémie. Qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que vous voulez dire, dans ces cas-là, est-ce que les commentateurs...
Oui.
Bon, les commentateurs...
Eh bien, il y a une différence entre les commentateurs traditionnels qui disent, voilà comment j'ai appris. Et... Ulfi, Ariou, Darti, et si Dieu me permet, Vénéré, Ben et Mori, j'ai un ridouche à vous proposer. Et c'est clair. Il dit voilà, ça, c'est ce que la Torah enseigne. Voilà, là, ici, j'ai quelque chose à proposer. Et c'est clair, on ne mélange pas. Et alors, quand c'est un Rambam qui nous dit, et d'après, c'est Rambam qui a parlé, okay, c'est Rabbi Akiva qui dit, c'est Rabbi Akiva. C'est pas n'importe quel lecteur de n'importe quel livre. Vous ça me rappelle quand j'étais. En cas de philosophie, j'étais impressionné par l'irresponsabilité du professeur. Il appelait ça l'éclectisme, la pédagogie éclectique. Alors il disait, voilà, Platon a dit que, Kant a dit que, Descartes a dit que, Spinoza a dit que, et moi je vous dis que. De la première fois que j'ai entendu ça, j'ai plus rien appris de lui. Est-ce que c'est clair? Alors quand un petit rabbin me dit, Rabbi Akiva a dit que, Rabbi Shimon a dit que, et bien, moi je pense que, chou, clou, aucune valeur, tout ça. Qui va mettre sa tête au milieu de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon? Et vous voyez tous ces petits enseignants qui se mettent au niveau des grands. Alors c'est suspect dès le début, tout le reste n'a aucune valeur. Ça veut dire qu'il ne croit ni en Rabbi Akiva, ni en Rabbi Shimon, ni même en lui-même, parce qu'il croit en lui-même. Et est-ce que c'est clair ce que je fais? J'ai parlé de personne. Hein. Il y en a trop, je ne peux pas les citer. Que tu veux citer?
Comment est-ce qu'il faut
comprendre ce qu'on nous dit? Attendez, je vais ajouter une phrase en jeu. Quand quelqu'un dit un chidouche, eh bien un chidouche, c'est un chidouche de quelque chose qu'il a reçu. Sinon, c'est pas un chidouche. Est-ce que c'est clair?
Comment est-ce qu'il faut comprendre? Il y a un certain enseignement qui est transmis dès la chef de l'île,
les médias. Ok. C'est cette Mishnah de Hagiga. Okay. Ça veut dire qu'on ne transmet qu'à celui qui est capable de comprendre. Les maîtres de Kabbalah ont des milliers d'élèves à qui ils enseignent le Talmud. Et puis finalement, ils envoient un qui est capable d'être Mevi Midato. Alors ils peuvent lui enseigner. Parce que, je vais te donner un exemple.
Mais la
oui, bien sûr. Je vous donne un exemple. Et ça, c'est d'ailleurs mon prof de philo, je vous rappelle. On parlait de la sensation. Si quelqu'un n'a jamais vu la couleur bleue, vous avez beau lui parler de la couleur bleue, il ne saura jamais ce que c'est que la couleur bleue. C'est clair? Alors il aurait une connaissance formelle, sémantique, sémiologique, tout ce que vous voulez, de tout ce qui concerne le bleu. Là, il pourrait être compétent dans tous les textes qui parlent du bleu. Le bleu, il ne sait pas ce que c'est. Alors lui disait comme ça, et je ne sais plus, quelqu'un qui n'a jamais mangé de pamplemousse. Si on dit un pamplemousse ou une pamplemousse. Hein? Alors, quelqu'un qui n'a jamais vu un pamplemousse, eh bien, il ne saura jamais casser le goût du pamplemousse. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, si le maître voit que le darat de l'élève est capable de comprendre Midarto, alors il enseigne. Et lui, il suffit de lui enseigner le Drashé Prakim. Et après, s'ils ont le temps, ils étudient ensemble.
Alors, comment les maîtres de la Kabbalah ont-ils reçu, justement?
Par leur maître. Et comment leur maître ont reçu? Qu'est-ce qu'il a dit Nahmani? Si on ne prend pas ça au sérieux, de quoi il s'agit? Quand on parle d'une tradition, comme si ce n'était pas une tradition, on devient fumiste.
Il y a eu un premier.
Le premier, c'est Dieu qui se révèle à Moïse. Et il faut ouvrir les yeux. Ou bien on est sérieux, ou bien on est fumiste. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien c'est de la philosophie. La philosophie pieuse, c'est pire. Écoutez, j'y peux rien, mais deux et deux, ça fait quatre. Alors, à l'université de Jérusalem, là, chez les Rivonis, on vous dit deux et deux, ça fait quatre. À Bar-Ilan, on vous dit deux et deux, Baruch HaShem, ça fait quatre. Mais en tous les cas, deux et deux, ça fait quatre. Okay. Mais pourquoi ce silence?
Attends, qu'est-ce que Rachid nous a donné quand il dit...
Voilà, allez, on y arrive. Est-ce qu'il nous reste le temps? Alors, vous allez prendre... Ben, tout simplement, regardez, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Yaakov est avant Essa. Quelqu'un? Oui. Alors, tu aurais pu croire que puisque dans ce verset, Yaakov est avant Essa, ça veut dire Essa de Tchouva. Alors, Rachid nous dit, non. C'est pas vrai. Essa fait pas Tchouva. C'est clair? Voilà. Et comme Rachid est en contexte chrétien, c'est très dangereux pour lui de parler de ça. Alors il écrit pour l'esparadis. Alors il dit, tu sais ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, n'écoute pas le texte tant que tu ne saches pas ce que ça veut dire, il y a quelque chose à savoir. Et je vais donner un autre verset qui confirme. Et parce que dans la controverse au Moyen-Âge, entre les Juifs et les chrétiens, c'était clair. Les chrétiens disaient que Ésaü c'est Israël et Jacob c'est les chrétiens. Et les juifs disaient que Jacob c'est les juifs, ils sont normaux, hein, Jacob. Il ne s'appelle pas Jacques celui-là, il s'appelle Jacob. Et qu'Ésaü c'est Édom, c'est les chrétiens. Alors imaginez, dans la situation sociologique des juifs et de leurs rabbins dans l'empire chrétien, de dire ici, ça veut dire lisez les Tahamim. Alors qui sait lire les Tahamim? Vous savez que c'est les tamines. Bon. Alors regardez bien. Et Yaakov, Reza. C'est-à-dire que Rivka, c'est la mère de Jacob. Et ça fait en plus. Ça fait les tamines. Hein? Je ne sais pas.
Encore une fois.
Encore une fois. Regarde bien. Sous M, tu as Marir. Sous Yaakov, Taha. Hein? Accent contre. Rivka, mère de Jacob, et Esav. Et Esav, c'est en plus. Et il va disparaître. On ne peut pas dire ça au chrétien. À l'époque de Rachid. Vous voyez pourquoi, j'en profite, pourquoi il y a un scrupule tel de lire à la Torah avec les Taramim. Parce que si vous ne lisez pas avec les Taramim, le texte veut dire autre chose. Est-ce que c'est clair?
C'est pas une suite de mots.
C'est ça. Et c'est Halakha le Moshe Mishinaï, les Taramim. Alors ce verset dit que Rivka est la mère de Jacob. Et ça, tu ne plie pas, et en plus. Et tu peux rejeter. Alors, on ne peut pas dire ça aux chrétiens, les pauvres. Voilà. Vous allez avoir comme reconfirmation ceci, qui est signalé par les commentateurs d'ailleurs. Prenez le verset 29 du chapitre 35. 29 du chapitre 35. Vous y êtes ? Prenez le verset 28. « Vayehu yeme Yitzhak » et les jours de Yitzhak furent « Me'ashana ushmonim shana » Verset 29. « Vayeva » il expira. « Yitzhak » Vayamot » il mourut. « Vayasef ramav » il fut adjoint à son peuple. « Zaken » ou « Sevayamim » âgé de sagesse. « Zaken » zekana chokma » et rassasié de jour. « Vayekberu oto » Aïssa ve Yaakov bana » Vous voyez qu'Aïssa ve Tama Yaakov, il n'a pas fait de chouva. D'accord? Voilà, alors vous recodez les trois versets, celui d'Ishmaël, celui où Rachid nous dit « Emi Yaakov et Esav », je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ici, et puis celui-là, on revient à Esav et Patshuva. Bon, alors si nous avions le temps, je vous prendrai d'autres textes pour expliquer ça dans l'histoire de Yitzhak. En fait, vous verrez vous-même que nous aurons une indication que Esav a fait Patshuva vis-à-vis de son père, mais pas vis-à-vis de sa mère. Et c'est dans le contexte où quand Esav s'aperçoit que la bénédiction est passée chez Jacob parce qu'il avait pris des filles de Canaan, des païennes. Et alors, il y avait un verset pour dire que les filles païennes étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak et de Rivka, mais en ce qui concerne Esaü, il vit que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père, il ne parle pas de sa mère. C'est clair, alors je vous donne une drache à ce sujet, à propos d'un verset qui est dans Michelet. C'est Shmar Beni Moussa Rabicha Vealtitosh Torah Timecha. Écoute, mon fils, la morale de ton père, Moussa Rabicha, Vealtitosh, et n'abandonne pas Torah Timecha, la Torah de ta mère. Le rôle de la mère. Et alors, le Midrash dit En Abicha, et la Abicha Sheba Shamaï, il n'y a de ton père que ton père dans le ciel, Veini Mecha et la Knesset d'Israël, et ta mère, l'Assemblée d'Israël. C'est clair, juste là. Alors, si on recode avec notre problème, ça veut dire que Esav va finalement faire tshuva vis-à-vis de Dieu, il accepte le Dieu d'Israël, mais pas vis-à-vis de Knesset d'Israël, il n'accepte pas le peuple d'Israël. C'est clair. Vous pouvez vous analyser ça plus souvent, mais c'est bon. Et par conséquent, quand Esav fera tshuva vis-à-vis de Knesset d'Israël, il disparaît. Il devient Jacob. C'est-à-dire Israël. Alors, vous voyez quelle a été la prétention du christianisme? Et ils avaient un problème qui a tout fait éclater, c'est que Jacob n'a pas disparu. Et que c'est les Juifs, et ce Jacob, c'est le peuple juif qui est Israël. Ils ont découvert ça de notre temps. J'ai vécu cette découverte à la génération précédente, mais aucune idée, vous êtes juif, comment pendant 2000 ans, les chrétiens ont cru qu'ils étaient Israël, subitement ils découvrent que c'est les Juifs qui sont Israël. Il y a un traumatisme colossal dans la conscience chrétienne aujourd'hui, qui est très dangereux. Si on n'arrive pas à les aider à s'en sortir, il y a un risque d'antisémitisme, en tout cas dans la Gola, très grave. Parce qu'ils commencent à ouvrir les yeux Et imaginez ce profil psychologique d'un être frustré, traumatisé à ce point, après 2000 ans de poids théologique. Pendant 2000 ans, ils ont dit, sérieux comme des papes, c'est nous Israël. Subitement, ça leur arrive à la figure, c'est pas Israël, c'est les Juifs. Alors pendant 2000 ans, ils ont parlé du mystère d'Israël, maintenant le mystère, c'est le mystère de l'Église. Pour le dire de cette manière, si c'est les Juifs qui sont Israël, l'Église c'est quoi? Et c'est leur problème actuellement, et ils s'en sortent pas. Si on les aide pas à s'en sortir, ils ne s'en sortiront jamais. Et alors, c'est très grave, parce que c'est un monde colossal, la chrétienté aussi. Elle leur a expliqué comment ils peuvent s'épurer. Pour ça, il faut qu'ils rejettent leur paganisme et qu'ils reconnaissent qu'au fond, ils ont adoré Israël en effigie d'idole.
C'est
Rambam.
Rambam.
Pas seulement Rambam, mais...
Non, c'est Rambam, on est en Yémen.
Ah là
il
faut... Non, ça c'est un autre délai. Okay. Et Rambam ne parle pas de ça. Il dit comme ça, comme il dit tout à l'heure, grosso modo, ils font tout ça. Okay. Mais il ne parle pas du contenu. Il dit d'Ishmaël et de Esav.
Tout ça, c'est une préparation.
Oui. Bon, je vais te dire. Je connais ce Rambam, et c'est clair. Seulement, qu'est-ce que nous a coûté cette préparation? C'est-à-dire, l'explication est insuffisante. Parce que si c'est dans l'Ajdaha de Dieu qu'on paye ce prix-là pour une préparation de ce genre, je vous garantis de s'occuper des goyim directement en dehors de la mosquée et de l'église, c'est plus économique. Donc, ça va être le plus grand jeu. Si c'est l'Ajdaha qui a voulu ça, c'est un peu démoniaque. Okay? D'autant plus que c'est pas facile de les aider à faire tout. Et alors qu'un goy, païen, c'est beaucoup plus facile.
Alors, cette épuration du vendeur, il reste combien si c'est une épuration spirituelle?
Non, il reste que ils sont une diaspora d'Israël. Et alors là, il leur faudra du temps, c'est-à-dire se reconnaître que ce fameux conflit pendant 2000 ans entre deux Israël, il y avait un malentendu installé par leurs apôtres, d'ailleurs. La rivalité n'existait pas du tout entre deux Israël, mais entre deux diasporas d'Israël. La juive, qui restait fidèle à la culture hébraïque et à la nation des Hébreux, et la chrétienne qui a changé de véhicule et qui a adopté le véhicule gréco-romain. Mais c'est une rivalité de deux diasporas et pas de deux Israël. Je vous dirai à quoi ça se rattache. Dans le canon biblique, et après je reviens sur l'histoire de diaspora, dans le canon biblique des chrétiens, les protestants ont réagi, donc je cite les catholiques et les orthodoxes, apparaît un schéma qui est faux, qui aurait eu les hébreux, et ensuite une bifurcation, les juifs, les chrétiens. Et les théologiens chrétiens ont beaucoup exploité ça. Okay? En réalité, c'est faux historiquement. Il y a eu 400 ans de la Mishnah entre la fin du Tanakh et le christianisme. D'ailleurs, il y a eu les hébreux, les juifs, et 400 ans après, un schisme chrétien. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, comme ils avaient besoin de combler ces 400 ans, ils nous ont inventé ce qu'ils appellent les apocryphes, c'est les Sfarim Achitsonim, pour combler ces 400 ans. 400 ans de temps culturel, énorme. L'arrêt de la prophétie, c'est les derniers prophètes hébreux. Et ensuite, il y a le temps de la Mishnah. Et le schisme chrétien est apparu à la fin de la Mishnah. Est-ce que c'est clair? C'est une hérésie païenne sortie du judaïsme. C'est plus compliqué, mais je schématise. Et alors, en fait, une rivalité de deux diasporas. D'ailleurs, ça a été un temps très difficile pour les rabbins, parce que la diaspora juive commençait, et voilà qu'elle a un rival qui est la diaspora chrétienne. Et alors, si aujourd'hui le christianisme, parce que la seule issue, c'est celle-là, cette épuration dont on parle, ils arrivent à comprendre qu'ils sont une diaspora d'Israël, et si le christianisme va dans ce sens, qu'est-ce que deviendra la diaspora juive? Parce que elle sera perdue dans la diaspora goy. Okay? Parce que je vous ai parlé peut-être souvent, peut-être pas à vous, du problème des relations judéo-chrétiennes, des amitiés judéo-chrétiennes. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, juifs de diaspora et chrétiens ont le même problème vis-à-vis d'Israël. C'est clair? Parce que si le peuple juif c'est Israël, alors les juifs c'est quoi? La diaspora c'est quoi? et on reprend tous les textes, depuis les prophètes jusqu'au Talmud, disant qu'à partir du moment où il y a Israël, celui qui reste en dehors est un idolâtre. Et on parle des Juifs. Okay? Alors ils ont le même problème, alors ils le mettent ensemble. Ils cherchent ensemble, Juifs de diaspora et chrétiens, une solution contre Israël. C'est pourquoi c'est très dangereux. Bon, alors, voilà, le jour où le christianisme s'épurera, on aura un problème, qu'est-ce qu'on va faire des Juifs? Des conflits de Juifs. Alors, si vous avez des amis chez des Juifs, donnez-leur l'adresse. Il faut faire ça avec beaucoup d'adresses, mais ça suffit. Top. Alors, bon, je vous cite encore d'autres textes, mais vous avez l'essentiel, c'est que les deux typologies, Ishmael et Yitzhak et Yaakov et Esav, sont très différentes. On a étudié la première, mais en contrepoint, vous aurez l'autre. Bessadé. D'ailleurs, une petite anecdote pour terminer, c'est pas une anecdote, c'est autre chose. Essayez de comprendre, quand vous serez de sensibilité israélienne, vous verrez mieux cela. Quand il m'arrive de lire, dans les journaux juifs de diaspora, des publicités pour des pèlerinages juifs. Alors vous avez pèlerinage en Terre Sainte sous la direction du grand rabbin Intel. Moi je lis ça en me disant, ça y est, les curés qui arrivent. Pèlerinage en Terre Sainte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des bons juifs en plus. Vraiment, le retard de l'inertie, c'est que Im Laban Garti va Echarabat.
Là, on n'est pas répondu à la question des juifs qui
arrivent. La question des juifs qui restent
en Terre Sainte. S'il faut que les chrétiens s'épurent, quant aux juifs, s'il faut qu'ils passent en paix, s'ils ne
montent pas. Eh bien, s'ils ne montent pas, ils auront un problème avec les chrétiens. Vous savez, quand c'est les chrétiens qui payeront la Makbit, on se passera de la Makbit des juifs. Les juifs, on en a besoin ici. Pas dans les banques là-bas, vous envoyez de l'argent. Il y aura les chrétiens pour ça. Bon, je schématise, mais vous comprenez. Économiquement, un juif dans le pays, c'est plus rentable que n'importe quel don qu'il envoie. C'est pas que pas vrai à 40 ans. Il fallait que le peuple juif fonde l'État. Maintenant, l'État est libre. Alors, ce dont l'État a besoin, c'est pas de l'argent des juifs, c'est des juifs. Vous comprenez le problème? Parce qu'on n'a que les juifs qu'on a, il n'y en a pas d'autres. Bref, et ça, ils le savent, à 40 ans, finalement, ils le savent. Mais ils sont pris dans un engluement que je comprends d'ailleurs. Il faut avoir beaucoup de rachamanou, il faut avoir beaucoup de compassion pour ça. Englué, et très malheureux. Parce que quand finalement ils parlent en clair, alors on sent à quel point ils sont malheureux, parce qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes et ça leur fait mal. Mais vous le savez, il n'y a qu'à les voir. En tant que juifs, ils sont tristes. Or, un juif triste, c'est pas normal. C'est clair, c'est juste. Bref, alors j'espère que vous entendez ça avec beaucoup de joie. Et alors, à bientôt. Je ne sais pas
donc,
comment.
Puisque c'est aujourd'hui donc, le dernier cours de cette année, et puisque les relations ont été beaucoup assez exceptionnelles, je crois que ça, pour l'ensemble des élèves du Marcon, il y a une demande à se faire. Je vais bien vouloir rester encore un petit peu pour participer à une coup de pouce, pour faire encore une heure.
Ah, c'est un coup de pouce. Bessadère. Entendu, d'accord.
Ouais,
j'avais pas prévu, mais.
Ça prendra une dizaine de minutes pour s'organiser, mais je pense que ça doit être en fait. Trois garçons immédiatement, vous allez.